mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis de la presse, auditrices, auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies. Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies RDC, nous aurons les activités des composants de la MONUSCO comme d'habitude, les activités de l'équipe pays avec Geneviève Delenoy pour le volet développement, et puis nous aurons les informations militaires avec le commandant Kékéré, porte-parole militaire par intérim de la MONUSCO. Et puis nos invités aujourd'hui sont depuis Goma Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations à l'Est. Et ainsi nous avons également le général Jean Bayou, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, donc en RDC. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse des Nations Unies que nous ouvrons tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. Appui à l'administration pénitentiaire. Une équipe de la section pénitentiaire de la MONUSCO donc a effectué une mission à la prison de Kasumbalesa pour évaluer les travaux de réhabilitation de cette institution réalisés par la section des projets à impact rapide de la MONUSCO. Les travaux de finalisation sont en cours. Il s'agit du plâtrage, de l'installation des portes et de la construction de fosses septiques. Ces travaux visent le désengorgement de la prison de Kasapa. L'équipe a également visité Chabunda où elle a tenu une réunion avec les responsables locaux sur l'octroi de terre pour la construction d'une prison moderne. Un lopin de terre a été identifié. Il faut maintenant construire une route et installer l'électricité ainsi que d'autres services utilitaires. Information en provenance de la police des Nations Unies. La police de la MONUSCO a mis en place conjointement avec la police nationale congolaise une stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Beni qui a permis l'arrestation de 200 suspects, dont des membres du groupe armé ADF, et la saisie des armes et munitions de guerre, de bombes, de radio Motorola et de nombreux effets militaires. La MONUSCO, par l'intermédiaire de la police des Nations Unies, a apporté un soutien logistique et a pris en charge le fonctionnement de deux numéros verts pour améliorer les interventions au profit des populations en danger. Pour faciliter les interactions avec la population et renforcer le soutien opérationnel à la PNC, la police MONUSCO envisage de déployer un détachement d'unités de la police constituée à partir de Goma. La lutte contre la criminalité ne pouvant être efficace sans la participation des populations, la police de la MONUSCO compte renforcer son appui à la PNC dans l'exercice donc de la police de proximité en vue de la sensibilisation des populations et du recueil de renseignements qui devrait permettre ainsi de monter des opérations et de procéder à des arrestations et des neutralisations. Enfin, la police de la MONUSCO, en collaboration avec la population, va renforcer son soutien à la PNC dans l'organisation des activités de prévention. Voilà tout pour les informations en provenance des composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite à l'équipe pays, avec tout d'abord Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Charles.
À la une de l'actualité sur les situations, sur les questions de développement, vous avez ?
Il y a plusieurs informations, dont la première émane de l'UNESCO. Le 2 novembre dernier, le monde a célébré la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Pour rappel, cette journée a été instituée en décembre 2013 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans le but de sensibiliser l'opinion aux défis que constitue l'impunité et de mobiliser des moyens pour lutter contre elle. C'est dans cette optique que le bureau UNESCO à Kinshasa a célébré la toute première journée internationale de la fin de l'impunité sous le patronage du ministre des Médias en collaboration avec Journalistes en danger et les différents organes de presse que cette commémoration tenait à associer. À cette occasion, une table ronde a rassemblé différents acteurs impliqués dans le développement des médias, notamment les sénateurs et députés, le gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les associations de journalistes, les écoles de formation de journalistes, ainsi que des professionnels des métiers de la communication. Au menu des débats, recueillir les attentes et les propositions des participants sur les enjeux majeurs liés à la fois à l'exercice de la liberté de la presse et à la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Le compte-rendu intégral de cette table ronde peut être obtenu à la fin de cette conférence de presse. UNESCO encore, la Journée internationale de la science sera célébrée lundi prochain, 10 novembre, avec pour thème « Enseignement scientifique de qualité » assurer un avenir durable pour tous. Dans un message à la communauté internationale, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, invite le monde à investir dans l'enseignement de qualité afin de donner des moyens d'agir à chaque homme et à chaque femme et de catalyser l'innovation et la créativité dont nous avons besoin pour ce nouveau siècle. Le texte de ce message vous sera également remis à la fin de cette conférence de presse. UNESCO toujours, les 10 et 11 novembre, l'UNESCO organise deux ateliers à Lubumbashi sur les médias et le genre. Le premier atelier portera sur les égalités des genres dans les médias et le deuxième sur le rôle des journalistes face aux violences basées sur le genre. Ces ateliers regrouperont plusieurs acteurs du Katanga qui militent en faveur de l'équité genre, notamment les associations, les écoles d'enseignement de journalisme et de communication, ainsi que des experts indépendants. Le chef du bureau et représentant de l'UNESCO à Kinshasa procédera à l'ouverture de ces ateliers. Concernant les volontaires des Nations Unies, du 4 au 8 novembre prochain, le programme des volontaires des Nations Unies organise une formation en gestion de projets et de mobilisation des ressources pour 10 représentants d'associations de la société civile à Goma. Au terme de cette formation, les participants auront acquis des connaissances et aptitudes en matière de gestion de toutes les phases du cycle de projet et de la mobilisation efficace des ressources pour le financement de projets de développement. Cette formation s'intègre dans un programme plus large de renforcement des capacités et d'accompagnement de la société civile, reposant sur le partenariat tandem entre 10 associations et 10 volontaires de l'ONU pour la réalisation ultérieure d'un projet de développement. Je vous rappelle que le programme VNU est l'organisation des Nations Unies qui promeut le volontariat comme instrument de paix et de développement dans le monde. En RDC, plus de 550 hommes et femmes qualifiés et expérimentés et provenant de plus de 90 nationalités différentes, y compris congolaises, sont mobilisés comme volontaires de l'ONU au sein de la MONUSCO et des agences de l'ONU dans plus de 30 lieux d'affectation différents. Excusez-moi. De par la variété des fonctions exercées, les volontaires de l'ONU jouent un rôle clé dans les opérations de maintien de la paix et ont un impact favorable sur les résultats en matière de développement. Alors, deux infos du PNUD pour terminer. À Goma, le 30 octobre, le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'ABAKIR ont organisé un atelier de développement du projet sur la gestion et la préservation des eaux dans le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, ce qui illustre la coopération régionale entre le Burundi, la RDC et le Rwanda pour assurer la pérennité de ces ressources naturelles essentielles que sont l'eau, la forêt et la biodiversité, et à terme éviter ce qu'on appelle la guerre de l'eau. Le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi est frontalier du Burundi, de la RDC et du Rwanda. Depuis 2011, ces trois pays, conscients des menaces que subissent les eaux du bassin et son environnement, s'efforcent de coordonner la gestion des ressources en eau de ce bassin pour assurer durablement la fourniture en eau et aux différents barrages construits dans les cascades de la rivière Ruzizi, d'où la création de l'autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi ABAKIR. Un communiqué de presse plus long vous attend à la fin de cette conférence de presse. Je terminerai en revenant sur une question posée par un journaliste de Goma, Saïd Abbas Majid, de Radio Mutaani. S'il est là, j'espère. Il avait posé une question sur la Journée internationale de l'épargne pour demander comment une femme qui gagne à peine $1 par jour peut épargner $10 par mois et si le PNUD a mis au point des mécanismes pour aider ou améliorer le pouvoir d'achat des femmes. Dorothée, qui me remplaçait, avait promis qu'on apporterait une réponse. La voilà. Oui, les personnes pauvres et vulnérables peuvent épargner, même s'il s'agit d'un tout petit montant. Ce qui est important à retenir, c'est que dans le mécanisme de l'épargne, il faut avoir le réflexe et la discipline de mettre de côté un petit peu d'argent de façon régulière pour pouvoir faire face aux imprévus ou encore lancer une petite activité génératrice de revenus. Concernant le PNUD, effectivement, il existe des produits financiers pour les femmes en milieu rural. Il y a ainsi les coopératives d'épargne et de crédit qui ont mis en place des crédits solidaires pour les groupes de femmes. C'est le cas du crédit épargne avec éducation qui ne demande pas de garantie ni d'épargne préalable. Si vous voulez des infos supplémentaires, s'il vous plaît, adressez-vous au PNUD, on vous renseignera pour les détails. Merci.
Merci Geneviève, voilà qui est bien dit pour ces questions de développement à RDC. Pas d'informations sur l'actualité humanitaire, mais comme vous le voyez dans la salle, nous avons Yvon Edoumou, grand spécialiste des questions humanitaires, qui se tient à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Tout de suite, la parole est au commandant Kékéré. Commandant, bonjour.
Bonjour Charles.
Une actualité militaire fournie comme d'habitude.
Oui, dans la semaine écoulée, il faut noter que la situation sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo a été jugée calme, mais demain imprévisible. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises poursuivent leur lutte contre la recrudescence d'activités négatives des éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA par la conduite d'opérations conjointes dans les districts de Haut et Baoulé. En Ituri, des efforts significatifs sont fournis par les troupes de l'armée congolaise soutenues par la force de la MONUSCO pour neutraliser les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, qui ont été encore auteurs de nouvelles exactions, meurtres, viols et pillages dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Les casques bleus de la force de la MONUSCO mènent en coordination avec les unités des forces armées de la République démocratique du Congo des patrouilles pour maintenir la pression sur les FRPI. Au nord Kivu, la situation sécuritaire demeure tendue et fragile suite aux tueries répétées récemment commises par les rebelles supposés appartenir à l'Alliance des forces démocratiques ADF dans le territoire de Beni, notamment autour d'Erengeti, Mbao, Ngadi et Boïkéné. Toutefois, les forces onusiennes et congolaises maintiennent l'environnement sécuritaire sous leur contrôle sur toute l'étendue de cette province. Dans le territoire de Beni, particulièrement, le climat sécuritaire a été jugé tendu et marqué par des meurtres et kidnappings. En effet, nombreux cas d'assassinats, enlèvements et autres actions attribuées aux éléments supposés appartenir à l'ADF ont été rapportés dans plusieurs localités de ce territoire pendant la période sous examen. Dans la nuit du 29 octobre 2014, 8 civils ont été tués à la machette dans la localité de Bongo, 30 km nord-est de Rengeti, et 10 autres à Kambi, 22 km nord-est de Rengeti toujours, par les éléments supposés appartenir à l'ADF, provoquant le déplacement de plus de 150 individus vers Rengeti centre. Sitôt informés, les troupes d'intervention rapide du bataillon népalais de la force de la MONUSCO et des FARDC basés à Erengeti ont été promptement déployées dans les zones affectées pour mener des opérations de bouclage et de ratissage. Un rebelle de ADF a été appréhendé lors du ratissage. Le 2 novembre 2014, des manifestations ont été organisées par les habitants de Beni pour protester contre le meurtre dans la nuit du 1er novembre 2014 de 10 individus dans le quartier Mouzambi à Beni. Dans la nuit du 2 novembre, une patrouille des forces spéciales jordaniennes de la MONUSCO a été prise à partie par des éléments armés non identifiés. La patrouille a riposté et a regagné sa base. Le 3 novembre 2014, des manifestations anti-FARDC ont été organisées dans la ville de Beni. Également, des pierres ont été lancées en direction de la base népalaise de la MONUSCO. Il faut noter que des patrouilles conjointes MONUSCO-FARDC sont effectuées de jour comme de nuit pour contrer les exactions des rebelles de l'ADF. À cet effet, un élément de l'ADF a été tué par les FARDC au coup d'accrochage, dans la localité de Mayi Yamoto, située 35 km de Kiwanja. La force onusienne a renforcé ses effectifs dans ce secteur par le déploiement de plusieurs unités supplémentaires destinées à soutenir les opérations des FARDC et de mener conjointement avec les troupes gouvernementales des patrouilles intensives de domination de terrain à Beni et dans toute la région. Dans le territoire de Rutshuru, les troupes gouvernementales soutenues par la force de la MONUSCO ont poursuivi leur offensive contre les éléments Maïmaï Niatura basés au nord de la région de Tonga. Il faut noter qu'un milicien Niatura a été tué et trois autres appréhendés le 29 octobre 2014 au coup d'accrochage à Bukombo. Dans le territoire de Walikale, l'opération conjointe FARDC-MONUSCO a concentré ses actions contre le groupe Maïmaï NDC-Tcheka sur l'axe principal Kachevere-Mpofi. La pression militaire exercée par l'armée congolaise sur les miliciens du groupe Maïmaï Tcheka a provoqué le retrait des insurgés de la localité de Bouniapoli. Du 29 octobre 2014 à ce jour, 22 éléments se sont rendus aux troupes onusiennes déployées à Loukouéti, Tongo et Bouniapoli. Parmi ces éléments, il faut noter 19 Maïmaï Niatura, 2 des forces démocratiques de libération du Rwanda, 1 élément Maïmaï NDC Tchika. Au sud Kivu, les forces onusiennes et congolaises maintiennent sous contrôle l'environnement sécuritaire. Il faut noter que suite au sinistre causé par les inondations dans la région de Kalehe, deux patrouilles quotidiennes sont menées par les éléments du bataillon pakistanais pour rassurer et protéger les populations sinistrées. Le climat sécuritaire au Katanga demeure volatile et imprévisible. Il a été marqué par quelques activités négatives d'éléments Baïmaï, Baka, Katanga. Aucun incident majeur susceptible de perturber la situation sécuritaire n'a été signalé dans le secteur 2. Enfin, pour les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 2291 patrouilles armées, dont 612 nocturnes et fourni 54 escortes dans la période sous examen. Je vous remercie.
Merci donc au commandant Kékéré. Je vous l'annonçais au début de cette conférence de presse, nous avons deux invités, le général Abdallah Wafi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de l'opération à l'Est, ainsi que le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayou. Peut-être que avant la séance de questions-réponses, général Abdallah Wafi, vous avez un mot préliminaire ou liminaire à donner. Vous avez sillonné l'Est, notamment la région de Beni ces derniers temps, accompagné d'ailleurs du général Jean Bayou. Est-ce qu'avant cette séance de questions-réponses, vous pouvez nous donner un mot avant que l'on ouvre le débat? Merci.
Merci Charles, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais effectivement très brièvement, compte tenu de la situation qui prévalait et qui prévaut dans le territoire de Beni, nous nous sommes rendus avec le général Bayo pour évaluer la situation et voir les mesures additionnelles qu'il fallait prendre pour faire face à ces actes criminels que vous connaissez. À notre arrivée, nous avons trouvé déjà sur place les autorités centrales même de Kinshasa, notamment le ministre de l'Intérieur, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, et bien d'autres responsables avec lesquels nous avons immédiatement échangé. Nous avons eu des échanges avec non seulement les autorités nationales, mais aussi avec les représentants des populations, la population civile, les organisations de jeunesse, pour échanger et avoir leur appréciation aussi de la situation. Nous nous sommes ensuite déplacés sur le terrain, notamment à Eringeti, à Kamango, à Semiliki. Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré les populations, mais aussi les autorités coutumières, les chefs traditionnels, les commandants des FRDC, des unités des FRDC qui sont déployées, et les commandants de la brigade d'intervention, notamment les Tanzaniens, qui sont déployés aussi bien à Kamango, à Semiliki et dans le territoire de Beni. De retour à Beni, nous avons tenu une réunion d'évaluation pour voir les mesures additionnelles qu'il faut prendre par rapport à cette situation de sécurité. Alors, comme vous le savez, le président de la République s'est lui-même rendu dans le territoire de Beni, accompagné d'une forte délégation, pour aussi faire l'évaluation de la situation sécuritaire, rassurer les populations, exprimer sa solidarité avec les populations du territoire de Beni et édicter toutes les mesures qui s'y est emparées circonstances. Du retour à Kinshasa, le président de la République a présidé un conseil supérieur de la défense pour étudier la situation qui prévaut à Beni. Et comme vous le savez, à l'occasion de son discours à Beni, le président de la République a lancé un appel à la MONUSCO pour renforcer sa présence. Le représentant spécial, Martin Kobler, a immédiatement réagi en donnant des instructions pour que, effectivement, cet appel du président de la République soit suivi d'un effet immédiat. Nous sommes actuellement en train non seulement de renforcer notre appui au FRDC, le déploiement d'autres forces supplémentaires, y compris ceux de la police des Nations Unies et de la police nationale congolaise. Alors, cette situation, comme vous le voyez, est une situation qui a plusieurs implications et donc la réponse doit être aussi multidimensionnel et intégré. Donc nous nous tenons à votre disposition pour partager notre évaluation ainsi que les mesures additionnelles qui ont été prises, mais aussi pour répondre à vos préoccupations et à vos questions si vous en avez. Je vous remercie.
Merci bien Abdallah Wafi. Je rappelle que vous êtes représentant